Matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Franz-Olivier Gisbert, l'homme qui connaît la Ve République comme sa poche, est avec nous pour Esprit Libre.
Bonjour David.
Bonjour Franz. Alors, ça n'est pas un changement de Premier ministre qui va vous impressionner, mais tout de même, il a des choses à en dire, Franz, de ce nouveau Premier ministre. Alors évidemment, quand on lit la presse, il y a comme une espèce d'état de grâce. Alors c'est pas l'état de grâce présidentiel pour le Premier ministre, ça va, c'est beaucoup plus court. Est-ce que vous partagez cet état de grâce, subjugué par la jeunesse, se surdouer de la politique? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Il y en a un peu déjà ras-le-bol, quoi.
C'est toujours un peu la même histoire. Bon, on dit c'est le plus jeune, bah oui, mais dans quelques temps, on dira du prochain Premier ministre, c'est le plus petit, puis après c'est le plus grand, enfin tout ça est grotesque. Et la jeunesse, vous savez, comme disait le poète Ronsard, elle s'enfuit sans jamais revenir, et c'est pas un argument. D'ailleurs, je dirais que Emmanuel Macron a gâché le mot, parce que les Français ont tendance à maintenant avoir dans le mot jeunesse l'inexpérience. Mais bon, le bon argument avec Attal, c'est de dire que c'est un politique. Et d'ailleurs, il était tombé dedans quand il était tout petit. Faut pas oublier qu'à 23 ans, il était déjà au cabinet de Marisol Touraine, ministre de la Santé sous François Hollande, et pour laquelle il écrivait les discours. Et puis, je sais pas, il devait être un peu grouillot aussi, parce qu'il était quand même très jeune. Puis, il a été conseiller municipal très jeune également. Bon, enfin, bref, contrairement à Macron, il a commencé tout au bas de l'échelle. Donc je dirais, d'une certaine manière,
il a milité.
C'est méchant, mais il a plus d'expérience que Macron. Alors, en même temps, parce que c'est ça qui est important...
Vous dites qu'il a plus d'expérience que Macron.
Ben oui, oui. Politique.
Politique, ben oui, monsieur, ouais. Monsieur, de politique, monsieur. De terrain.
Ah oui, parce qu'il était en bas de l'échelle, tout en bas. Il a vu comment ça marchait, ce que Macron n'a jamais vu. Je crois que c'est le grand problème de Macron, même y compris les erreurs qu'il commet aujourd'hui. Et plus important que ça, c'est quelqu'un qui a du caractère. Ça, c'est qu'il faiblit pas devant l'obstacle. On l'a vu avec la Baïa. Mais je dirais, on n'en parle pas, mais il a été excellent aussi pendant la période du Covid. Quand il a pris la main à la fin avec Emmanuel Macron, je sais pas si vous vous souvenez, ça faisait un joli couple. Et là, sur cette affaire-là, il était très bon. Donc, moi, je suis pas étonné par l'accueil, disons, d'une partie des Français, parce que bon, c'est plutôt les médias qui sont en transe. Mais les Français sont pas trop en pamoison, mais quand même, je veux dire, ça redonne de l'air à...
Il y a le sens
ça redonne de l'air à Macron.
Il y a le sens du tempo aussi. Moi, j'ai remarqué ça au moment... Enfin, pour la période où il était ministre de l'Éducation nationale. On attendait la rentrée avec la Baïa. Paf, il était prêt. On l'attendait sur les mauvais résultats des élèves à l'entrée en 6e. Il était prêt, il avait quelque chose à dire. Sur le harcèlement, il était prêt. Il anticipait les ennuis et à chaque fois, il rebondissait.
Oui. Alors, c'est de la peut-être com, avec un peu trop de com. Mais,
c'est un as de la com,
il a le sens du rythme. D'ailleurs, je crois que Macron, il va finir par en revenir, parce que ces gros coups de com, par exemple, les rencontres de Saint-Denis, c'est un flop, le célèbre conseil de la refondation, là, qui rappelait le CNR, c'est également un flop, enfin, vous voyez, donc.
Les chantiers.
Alors, moi, je dirais quand même, il y a une petite chose que j'ai envie de dire quand même sur Attal. Faut jamais oublier, parce que s'il est positionné pour l'Élysée, c'est pas sûr que ça va le faire. Et parce que Matignon, c'est pas le meilleur tremplin pour l'Élysée. On l'a vu avec Chirac en 88, avec Balladur en 95. C'est pas l'idéal. Et puis, faut pas oublier cette phrase qu'il faut qu'il médite. Parce que moi, je l'ai entendue dans la bouche de Pierre Mauroy, Jacques Chirac ou Edith Cresson. Cette phrase, elle est géniale d'ailleurs. C'est les deux plus beaux jours de la vie d'un Premier ministre. C'est le premier quand on arrive à Matignon. Et surtout le second quand on s'en va. Voilà.
Oui, enfin, Elisabeth Borne, elle n'était pas heureuse de partir.
Oui, mais enfin, ça fait longtemps que puis d'abord, c'était un miracle qu'elle devienne Premier ministre. Un miracle complet et absolu. Et j'ai rarement vu des premiers ministres qui n'étaient pas contents de partir. C'est-à-dire, tous à peu près.
Ouais, Édouard Philippe l'avait un peu mauvaise, Elisabeth Borne l'avait un peu mauvaise, Michel Rocard l'avait un peu mauvaise.
Non, Michel Rocard, il y avait trop de haine entre Mitterrand et Rocard, la relation était très compliquée. C'était pas, non, c'est pas vrai. Globalement, ils sont plutôt soulagés Bon, ils sont un peu tristes, mais contents. Il y a quand même toujours un petit côté, une sorte de dépression qui suit Matignon. Hein, ça, c'est clair. Mais on peut pas dire qu'ils partent, comment dire, tous malheureux. C'est pas vrai.
Allez, alors les attendez. Chantiers. Dans les chantiers.
Alors voilà. C'est le problème des chantiers, c'est-à-dire que là, Attal, il faut qu'il réussisse sur tous les chantiers qui vont s'ouvrir. Et ces chantiers, c'est quoi? Bon, c'est très simple. Le premier, c'est l'endettement. Hein, n'a jamais oublié qu'on est à 111% du PIB. Alors, il y en a qui font pire, mais enfin, nous, pour l'instant, on est quand même le plus gros emprunteur en Europe. Et on va emprunter en plus cette année 285 milliards. C'est un chiffre record sur les marchés financiers. On n'aura jamais fait mieux. Les dépenses publiques, on a également là un record. Avant, on était avec le Danemark, mais le Danemark a fait des gros efforts et il a baissé ses dépenses publiques de 10 points. On dépense beaucoup pour nourrir l'État, contrairement à d'autres qui parfois empruntent pour leur pays. Je pense par exemple les États-Unis. C'est vrai qu'il y a un gros endettement, mais il y a des grands projets. Biden n'a pas cessé d'investir. Nous, non, c'est pour finir les fins de mois, boucler payer les fonctionnaires. Enfin, c'est pour l'État, et puis avec évidemment des résultats effrayants, puisque quand on voit l'état des services publics, on ne sait pas très bien où va l'argent. Alors ça, c'est peut-être le dossier le plus important avec l'autre, qui est l'immigration. Parce que l'immigration, c'est pas l'immigration en soi. Évidemment, faut être débile pour expliquer qu'il faut arrêter l'immigration à d'où jamais en France, c'est idiot. Le pays, il a besoin d'immigration. Mais une immigration contrôlée. Or, c'est de la folie aujourd'hui, c'est du délire, il y a aucun contrôle. C'est-à-dire, vous arrivez à Lampedusa, liberté de circulation, allez hop, on franchit la frontière en France, liberté de circulation. Enfin, il y a un truc qui va pas.
Surtout qu'on a des chiffres sur les taux de reconduction à la frontière et des OQTF, dérisoires par rapport aux arrivées.
Donc, on a à peu près 500 000 immigrés de plus chaque année. Enfin, c'est un peu moins, mais si vous rajoutez les clandestins, évidemment, c'est plus et même beaucoup plus. C'est absurde. Il faut contrôler, parce que on voit très bien qu'il y a plus aucune, il y a jamais eu, enfin ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'assimilation, mais maintenant il n'y a plus d'intégration. Donc ça, c'est encore un dossier. Et puis le dernier point, c'est l'autorité. L'autorité, parce que c'est le troisième dossier, il faut qu'il rétablisse l'autorité, et je pense qu'il en est capable. Sur les deux premiers, je suis un peu inquiet pour lui, parce que le gros problème de Macron, et ça sera son gros problème, c'est qu'il n'y a pas de majorité.
Vous parliez de la dette et des déficits publics, il est quand même flanqué d'un directeur de cabinet.
Des dépenses publiques.
Et des dépenses publiques, il est flanqué d'un directeur de cabinet, Emmanuel Moulin, qui a été directeur du Trésor. Au moins sur ce plan, sur le plan budgétaire et des chiffres et des comptes publics, il sera bien conseiller.
Alors, mais pourquoi vous dites ça? Parce qu'Emmanuel Moulin, c'est un choix de Macron. C'est déjà un peu compliqué le départ. C'est-à-dire que c'est le président de la République qui choisit le directeur de cabinet du Premier ministre.
Un senior pour épauler le junior.
C'est nouveau ça, mais ça c'est
pas
depuis Macron. Oui, c'est depuis
Macron. Il a choisi celui d'Elisabeth Borne.
D'Elisabeth Borne, de Jean Castex, etc. Mm-hmm. Mais c'est pas un bon système. Vous savez très bien, le Premier ministre, faut lui donner de l'air. Le Premier ministre, faut qu'il gouverne pendant que le président préside. Parce que si le président, il préside et puis il gouverne et puis il pas quoi, tout ce qu'il fait, plus la com, plus le reste, on ne sait pas très bien comment il peut suivre les dossiers.
Ça veut dire qu'au Conseil des ministres, qui aura l'autorité? Ce sera le Premier ministre sur les autres ministres, ou ce sera le Président de la République, comme d'habitude, sur les autres ministres? Parce qu'à 32 ans, il faut les tenir, les Darmanin, les Bruno Le Maire.
Question vicieuse, vous savez très bien que, évidemment, Emmanuel Macron va garder Gérald Darmanin. Entre Gérald Darmanin et Gabriel Attal, tout le monde a compris que ça ne marchait pas du tout. Et bon, c'est pas la seule fois, vous savez, ça, on peut très bien faire des gouvernements avec des gens, qui s'entendent pas, hein. Juppé et Balladur, ils s'entendaient pas du tout, ils travaillaient ensemble, Rocard et Dumas aussi. Donc, mais simplement, c'est clair que Emmanuel Macron va s'en servir. C'est normal.
Il va s'en servir pour les européennes.
Pour les européennes, de toute façon, c'est indéniable que Macron, c'est un atout pour Macron. Darmanin est un atout pour Macron. Et il faut voir le profil. Fils de concierge et de tenancier de bar, petit-fils de tirailleur algérien, médaillé militaire, résistant, harkis, etc. C'est quelqu'un qui représente quelque chose, qui représente la France populaire. Et vous savez, il y a déjà eu ce premier scud qu'il a envoyé contre Gabriel Attal. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, moi je trouve ça dingue. Hein, il a dit mardi, alors que tout le monde savait que Gabriel Attal allait être nommé à Matignon. Vous savez, de là où je viens, de province, d'une famille populaire, on aime bien terminer ce qu'on a fait. ça, évidemment, c'est une allusion directe à Attal, qui quittait le ministère de l'Éducation nationale. Et Gérald Darmanin ajoutait qu'il voulait terminer sa mission car il était, je cite, « un homme d'humeur ». C'est du brutal, comme dirait Bernard Blier, après avoir goûté l'alcool que lui a servi Francis Blanche, vous savez, dans cette scène culte des tontons flingueurs. Bon, ça promet.
Hein. Alors, on voulait parler des échéances électorales européennes et présidentielles. On le fera la semaine prochaine parce qu'on a quand même le temps d'enjamber.
Oui,
il y a quand même beaucoup de choses à
C'est pas
à
si
redire.
Important. Ça, c'est un truc pour les journalistes.
Alors, vous vouliez...
Les élections européennes, elles seront toujours perdues par le pouvoir
déjà,
sortant. Elles
on parle déjà
perdues.
D'Attal pour
elles
la présidentielle.
Perdues.
Il n'a même pas encore nommé son gouvernement.
Elles seront perdues.
Alors, quand même, un coup de cœur pour un livre.
Ah oui, très bien. Alors, Amin El-Khatmi. Alors, c'est un livre d'actualité. Cynisme, dérive et trahison. Amin El-Khatmi, vous le connaissez peut-être, c'est
le président du Printemps
l'ancien
républicain.
L'ancien président du Printemps républicain. C'est un grand bonhomme. Vous savez, il a l'âge de Gabriel Attal, hein. Il a l'âge de Gabriel Attal, et d'ailleurs, il était socialiste aussi comme lui. Bon. Et puis, c'est un laïc, il a combattu les islamo-gauchistes avec beaucoup de force et beaucoup de talent, parce qu'il a beaucoup de talent, d'ailleurs, il le montre dans ce livre. Et, il raconte dans ce livre comment il a été, les Macroniens ont essayé de l'instrumentaliser. Comment, avant de le jeter comme un vieux Kleenex, quoi. C'est un peu ça.
Bah, ils ont fait pareil avec le précédent ministre de l'Éducation nationale.
Ah oui, avec Jean-Michel Blanquer.
Non,
bien
avec
sûr.
Blanquer, avec Papendiaï.
Oui,
Papendiaï,
bien sûr, bien sûr.
C'était le contraire de ce qu'a fait Blanquer et le contraire de ce qu'a fait, Gabriel Attal. Ils ont fait une ouverture comme ça vers l'électorat de gauche avec Papendiaï et ils lui ont saboté le boulot.
Alors, Amin El-Khatmi, donc, il nous raconte, si vous voulez, la Macronie de l'intérieur dans ce livre. Moi, j'adore. C'est chez Harper et Collins. Cynisme, dérive et trahison. Je répète, cynisme, dérive et trahison. Et ça commence par quelques pages d'actualité sur Gabriel Attal.
Vous l'avez formidablement vendu, Amin El-Khatmi, président.
Ah ouais, c'est un grand bonhomme.
Président du Printemps républicain.
On entendra parler d'Amin El-Khatmi dans les prochaines années, vous verrez.
Président du Printemps républicain, alors je voulais vous passer le printemps de Vivaldi, mais c'est un peu tôt.
Ah oui,
vous aurez l'hiver. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.